Frères et sœurs, en ce temps de l'Avent qui nous parle de la naissance, de l'advenu au monde, nous avons donc commencé à parcourir cette épître de Paul aux Thessaloniciens qui s'avère être en quelque sorte la naissance du Nouveau Testament. L'épître aux Thessaloniciens est en effet le texte le plus ancien qui ait été retenu dans le Nouveau Testament. Et donc, vous lire les premiers versets de cette épître, c'est vous lire en quelque sorte les plus vieux récits de ce Nouveau Testament qui ne commence pas, en fait, par l'Évangile selon Jean. C'est durant son deuxième voyage missionnaire, quelque temps après son passage à Thessalonique, au plus tard vers l'an 51, que l'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens en ces termes. Je vous lis les 10 premiers versets du premier chapitre de cette première lettre. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons grâce continuellement à Dieu pour vous tous, et nous faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, de la peine de l'amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et en pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de détresse, avec la joie de l'Esprit-Saint. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, nous chanterons ce cantique 149 qui nous permettra de nous préparer à la méditation de ce passage de l'apôtre Paul, cantique 149. Les strophes 1, 2 et 4, et nous nous levons pour chanter. Pardon, c'est le 194. C'est que j'avais un mauvais cantique en face de moi. Cantique 194. Éternel notre Dieu, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en chacun de nous et ainsi transformer notre vie. Éternel notre Dieu, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en notre cœur nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Éternel notre Dieu, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille l'être humain et l'invite à te suivre. Chers frères et sœurs, parce que cette lettre de Paul aux Thessaloniciens est le texte le plus ancien que nous ayons dans le Nouveau Testament, cela nous donne envie évidemment de le lire, ce texte, comme le témoignage le plus ancien sur la foi qui est en train de devenir chrétienne. Envie de le lire, ce passage, comme le témoignage de la théologie la plus proche de la prédication de Jésus, du moins sur le plan chronologique. Et cela donne envie de lire ce texte comme une sorte de documentaire qui présenterait le modèle originel du disciple du Christ. Mais le lecteur avisé se méfie toujours et se doute bien qu'il ne trouvera rien de pareil dans ce texte, bien entendu. D'abord parce qu'évidemment, Paul ignore tout à fait qu'il est en train d'écrire le texte le plus ancien du Nouveau Testament. D'ailleurs, Paul ignore même qu'il est en train d'écrire un texte biblique. Ensuite, parce qu'il semble que les textes bibliques nous prennent toujours à rebrousse-poil, qu'ils prennent en quelque sorte un malin plaisir à ne jamais répondre tout à fait à nos attentes, à ne jamais livrer sur un plateau d'argent les réponses aux questions qu'on voudrait lui poser. Mais là, justement, pas de chance, nos doutes ne sont pas exaucés, car Paul commence sa lettre aux Thessaloniciens en disant qu'ils sont justement un modèle pour les croyants de Macédoine et d'Achaïe. Nous voilà donc, frères et sœurs, devant une tragédie dans l'histoire biblique. Nous sommes face à un modèle en matière de croyance. Cela ne nous arrange pas vraiment, à vrai dire. Cela ne nous arrange pas, nous qui nous méfions des modèles en matière de foi. Nous qui refusons une standardisation du croire. Nous qui soutenons qu'il y a non seulement une pluralité théologique, mais aussi une pluralité des façons d'être croyant. Alors, voilà que notre cher apôtre Paul présente une figure de croyant, un modèle. Alors, la figure du croyant que Paul défend, est-ce celui qui sait par cœur le texte biblique, au point de pouvoir le réciter dans un sens et dans l'autre? Le modèle de croyant que l'apôtre Paul défend, est-ce celui qui a une morale irréprochable et qui applique à la lettre ce que la loi de Dieu recommande? Est-ce plutôt celui qui fait preuve d'une obéissance exemplaire aux responsables religieux et qui font précisément ce que son pasteur lui demande ou commande? Est-ce celui qui arrive à placer les mots « Dieu »,« foi », »,« Jésus-Christ », »,« salut » dans plus de 50% de ses phrases? Quel est le bon croyant d'après vous? La réponse est dans le texte. Selon l'apôtre Paul, la figure même du croyant consiste, je cite, à avoir reçu la parole au milieu de beaucoup de détresse avec la joie de l'Esprit-Saint. Cela signifie qu'il n'est pas besoin d'être une sorte d'animal théologique. Il n'est pas besoin d'être une sorte de pharisien zélé. Il n'est pas besoin d'être aveuglément soumis à sa hiérarchie. Il n'est pas non plus besoin d'être de ces prosélytes qui semblent avoir avalé un dictionnaire du patois de Canaan. Selon Paul, dans le cas de la communauté de Thessalonique, le croyant remarquable est celui qui a accueilli la parole alors qu'il était en pleine détresse, et cela avec la joie de l'Esprit-Saint. Ce fait est tout à fait notable, parce qu'il va à l'encontre de l'élan naturel de l'homme qui, dès qu'il est assailli par une sorte de détresse, a plutôt tendance à se renfermer sur lui, à se replier, à se verrouiller contre tout ce qui pourrait l'ouvrir à l'extérieur. Nous l'avions constaté au sujet des disciples juste après la mort de Jésus. L'évangéliste Jean nous rappelle qu'ils s'enferment dans une pièce parce qu'ils ont peur. Et la tentation première, lorsque ça ne va pas, c'est toujours de se recroqueviller. Et à vrai dire, nous comprenons bien cette envie de se calfeutrer pour trouver un peu de réconfort quand ça ne va pas bien. Nous comprenons bien cette attitude qui consiste à se recroqueviller, à se replier sur soi, pour se retrouver, et par là même pour retrouver un peu de confiance en soi, un peu d'assurance. N'est-ce pas d'ailleurs ce que font les autruches, au moins dans l'imaginaire populaire. Dès qu'il y a un problème, elles se cachent la tête dans le sol. Et du coup, elles ne voient plus le problème et elles vont mieux. Pour Paul, évidemment, ce n'est pas un modèle du genre, le modèle de l'autruche. Le repli sur soi, la crispation identitaire vont à l'encontre de ce que Paul valorise. Accueillir une parole extérieure, une parole qui ne vient pas de soi. Parce que cette parole autre, c'est cette parole justement qui va pouvoir nous rendre la joie de vivre. Alors que ruminer inlassablement cette parole qui est en nous, c'est cela qui provoque de l'amertume. Se renfermer sur soi, se renfermer sur sa vie, sur ses pensées, sur sa seule compréhension du monde et de l'existence, c'est inévitablement s'enfermer dans une forme d'obsession. Et cette obsession a de quoi nous rendre malades. Alors, contre une posture du repli, qui considère par exemple qu'il vaut mieux revenir à une messe en latin et à la théologie médiévale pour se préserver d'une société qui semble faire diminuer le nombre de pratiquants, ou qu'il vaut mieux envelopper les femmes qui, par le seul fait de leur présence, peuvent menacer notre moralité toute virile, ou qu'il vaut mieux interdire l'érection des édifices d'autres cultes pour que le nôtre ne disparaisse pas dans la masse. J'ai cherché un détail qui pourrait concerner notre protestantisme, mais je n'en ai pas trouvé. La poutre doit être trop grande. Contre tout cela, Paul est reconnaissant vers ceux qui ne s'enferment pas dans leur chapelle, mais qui témoignent d'un esprit d'ouverture. Ouverture qui devient une véritable force de témoignage et de retentissement au-delà de notre sphère habituelle. Oui, il est bien question de modèle de croyance sous la plume de Paul. Mais cette figure exemplaire se dessine dans la perspective d'une disponibilité, dans la perspective de l'ouverture et ultimement de la communication vers l'extérieur, vers l'autre, vers ce qui nous est étranger. C'est un premier point que j'aimerais relever de cet épître de Paul aux Thessaloniciens, que le modèle de croyant, c'est un modèle d'ouverture. Le deuxième point, c'est que cette ouverture se réalise également dans un autre fait notable. C'est qu'au tout début de cette lettre, Paul déjà nous parle de sa sainte Trinité, la foi, l'espérance, l'amour. Et ces trois vertus, qu'on appelle vertus théologales, Paul les qualifie. La foi est agissante, l'espérance est endurante. Quant à l'amour, contrairement à ce que la plupart des traductions françaises restituent, l'amour est en peine. Souvent, le terme « kopos » est traduit par « travail ». Alors évidemment, dans une étymologie latine, le travail n'est pas sans rapport avec la torture, et donc avec la peine. Mais il ne faudrait pas trop édulcorer cette traduction et ne pas gommer le fait que dans l'esprit de Paul, il y a un lien entre l'amour, l'agapé, et la peine, la souffrance, la lassitude même. L'amour est en peine, écrit Paul. L'amour souffre. Et cela, dans la perspective de Paul, curieusement, semble être un aspect positif. Il ne dit pas cela en se lamentant, en essayant de consoler les Thessaloniciens, en leur disant « Ah, mes pauvres amis, vous êtes en peine d'amour. » Non, de même que la foi est agissante, de même que l'espérance est endurante, l'amour est en peine. Ce fait notable dans la mesure où ce texte témoigne d'un état ancien d'une communauté pré-chrétienne. Et toujours par rapport à notre envie d'en savoir plus sur ce qu'était la foi chrétienne dans ses commencements, ce que pouvait bien être une communauté primitive, proche de Jésus, eh bien, nous avons là une trace qui a sérieusement de quoi faire réfléchir nos esprits quant à nos fantasmes sur ce que doit être une église, sur ce que doit être une communauté religieuse, sur ce que doit être une assemblée de frères. L'idée selon laquelle une communauté chrétienne devrait être bâtie sur l'amour et que cet amour devrait être tout simple, sans tâche, sans imperfection, eh bien cela est un fantasme qui est malmené par l'apôtre Paul dès son premier écrit. Une communauté chrétienne, on pense que ce devrait être nécessairement un petit coin de paradis où tout est beau, où tout sent bon, au sein duquel il règne une harmonie parfaite, une sorte d'unité qui confine à la fusion. Mais voilà que cette communauté modèle de Thessalonique est marquée par le fait que l'amour est à la peine. Faut-il en être déçu ? Faut-il être déçu que le bel amour, l'amour parfait en quelque sorte, ne soit pas une composante de la communauté modèle dont parle l'apôtre Paul ? Il faut surtout en être conscient, oui. Parce que cette communauté idyllique, où l'amour aurait régné dans une sérénité totale, n'a donc pas existé. Il n'y a pas un âge d'or du christianisme où tout aurait été parfait, où tout le monde aurait partagé ses biens sans rien retenir, où il n'y aurait pas eu d'Ananias et de Séphora. Les archives bibliques ne font nullement état d'un âge d'or du christianisme, du moins d'un âge d'or qui correspondrait à ce fantasme d'une communauté splendide et parfaite. Là comme ailleurs, l'amour est à la peine. L'amour s'émousse. L'amour se lasse. L'amour encaisse les coups. C'est un fait. Et pour ne rien vous cacher, ce fait est heureux. C'est bien comme ça. Oui, il est heureux que les textes bibliques assument, ce qui peut être une profonde déception pour les chrétiens, le fait qu'il n'y a pas de communauté idéale. Il n'y en a pas eu, et mieux vaudrait qu'il n'y en ait pas. Et je crois que c'est là l'intuition qu'avait le théologien Dietrich Bonhoeffer. Lui qui a le mieux exprimé cette conviction. Dans son ouvrage sur la vie communautaire, Dietrich Bonhoeffer écrit, je cite, et c'est une phrase qui vaut en particulier pour tous ceux qui nous rejoignent peut-être, « Certes, il est inévitable qu'un chrétien sérieux apporte avec lui la première fois qu'il est introduit dans la vie de la communauté un idéal très précis et qu'il essaie de vivre cet idéal. » Bonhoeffer continue ainsi, « Mais c'est une grâce de Dieu que ce genre de rêves doivent sans cesse être brisés. Pour que Dieu puisse nous faire connaître la communauté chrétienne authentique, il faut même que nous soyons déçus, déçus par les autres, déçus par nous-mêmes. » Fin de citation. Selon Dietrich Bonhoeffer, c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de cette déception. C'est Dieu lui-même qui s'efforce de briser cette vision idyllique d'une communauté idéale, au sein de laquelle l'amour serait parfait au sens où il serait total. Sans faille, sans brèche, sans imperfection. Dieu serait donc celui qui nous fait éviter le tout amour, celui qui nous fait éviter cet amour qui, en vérité, empoisonne la vie, en prétendant tout nous donner, en prétendant tout rendre possible, en prétendant produire le bonheur immédiatement, un bonheur absolu. Et c'est en ce sens, me semble-t-il, que nous pouvons comprendre Paul qui dit des Thessaloniciens qu'ils se sont détournés des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Cela parce que les Thessaloniciens refusent d'accaparer Dieu comme le ferait un amour que l'on espère fusionnel. Ou du moins, laisse-t-il Dieu échapper à la mainmise que nous sommes toujours prêts à effectuer ? Et c'est ainsi que les Thessaloniciens ne font pas du Dieu vivant un objet, une sorte de breloque. Dieu reste sujet à part entière, Dieu reste vivant, et cela parce qu'il reste à distance. Cela parce qu'il n'est pas entièrement absorbé par la volonté humaine qui est la nôtre. Et cela nous aide à comprendre, je crois, que la déception peut effectivement relever d'une pédagogie de Dieu. Dieu qui s'efforce de nous éviter de faire fausse route avec une fausse idée de l'amour. Dieu qui s'efforce de nous éviter de sombrer dans un amour qui devient étouffant, peut-être tyrannique, voire meurtrier. Cette peine de l'amour, c'est une mise à distance de Dieu. Et c'est aussi ce qu'exprime la fin de ce passage que nous avons lu, qui nous parle encore de l'attente du Fils. C'est précisément le sens de l'avant, l'attente de l'advenu. Parce qu'il est absent, le Fils rappelle que Dieu n'est pas tout à fait là. Et ça aussi, c'est heureux. Dieu n'est pas tout à fait là. Et c'est ce qui explique que tout est loin d'être parfait dans notre monde, dans notre existence, dans notre Église, dans notre famille, dans nos relations. Dieu n'est pas tout à fait là. C'est ce qui explique que le bonheur ne soit jamais total, que nous soyons toujours un peu insatisfaits, que ça ne se passe jamais vraiment comme prévu ou comme espéré. Mais c'est aussi ce qui rend possible l'amélioration de chacune de nos situations de vie. C'est aussi ce qui rend possible le renouvellement de notre vie vers un mieux-être. C'est qu'il y a encore de la place pour que ça change, et que ça change en mieux. Parce que notre vie n'est pas figée dans un état particulier, un mieux est encore à venir. Parce que tout n'est pas définitif une fois pour toutes. Nous pouvons encore, nous aussi, comme les Thessaloniciens, recevoir cette joie que Dieu instille en nous, par ce que l'apôtre Paul appelle l'Esprit Saint. Alors bien souvent, nous comprenons la peine de l'amour comme une sorte de drame, comme un échec, comme quelque chose qui n'a pas réussi, comme le dernier mot de notre histoire, comme si la peine de l'amour c'était qu'il n'y aura pas de suite. L'évangile que l'apôtre Paul annonce y voit au contraire une empreinte laissée par Dieu lui-même, laissée par ce Dieu qui vient nous bousculer pour nous faire avancer encore un peu, pour nous faire faire un pas de plus, pour nous faire progresser vers une joie un peu plus parfaite. Amen.